de temps dans cette séquence, donc avec Mathieu Riboulet, autour d'un de ses livres qui est à la lecture. Je ne le présente pas, il va être présenté tout de suite. Donc, tout d'abord, une conversation, et ensuite, donc, une lecture de passage de ce texte, qui est, comme le titre l'indique, un éloge, d'une certaine manière, de la lecture.
Donc, Dominique vient d'expliquer, présenter le propos de cette table ronde. Nous allons donc parler avec Mathieu Riboulet de ce livre publié l'an dernier, intitulé donc « À la lecture ». Donc peut-être vous nous direz un mot de ce titre, que vous avez écrit avec la cinéaste Véronique Aubouy, à partir du film en cours auquel elle travaille depuis un bon moment, depuis 1993, je crois, intitulé le film « Proust lu » et qui consiste en la lecture filmée intégrale de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Qui est un passage du livre où est décrite la manière de faire, une façon brute de lire au ras du texte, sans projet ni intention autre que de lire les mots tout en faisant attention à ne pas trébucher. Une lecture nue, est-il dit. Et les lecteurs dans ce film sont extrêmement divers, de même que les situations de lecture, un paysan des Cévennes dans sa cuisine, un bijoutier à Baalbek au Liban, pas à Cabourg, une femme dans un ascenseur, un tout jeune homme au jardin du Luxembourg. Et le livre se déroule un petit peu de la même façon, au gré de courts chapitres, tantôt donc écrits par vous, tantôt écrits par Véronique Aubouy, c'est du moins l'impression qu'on en a. Et ces courts chapitres, ce sont autant de réflexion, de vaticination, de digression, de fiction, à partir donc de la situation de lecture ou du texte même de la recherche du temps perdu. Parce que Proust, bien entendu, est partout dans le livre. Et même pour reprendre un titre d'un des chapitres, là où on ne l'attend pas. C'est page 95. Un des charmes de ces lectures filmées, c'est leur faculté de faire surgir le texte dans les endroits les plus inattendus. De l'entendre résonner dans un hall d'hôtel, un paysage de brume de la montagne libanaise, dans le métro parisien, une épicerie de Rennes, un atelier de menuiserie, où sais-je encore. Et un peu plus loin, ce surgissement inopiné, le film l'a bien compris, c'est aussi celui auquel le livre se livre dans nos vies de lecteurs. Donc on pourrait peut-être commencer par vous demander pourquoi ou comment vous est venu ce projet de livre et peut-être aussi, deux mots, votre rapport à Proust. Enfin, je suppose que Proust vous intéresse un minimum si vous avez fait ce livre avec la cinéaste.
Bon, je pense que les deux réponses viendront dans le même mouvement. Le projet initial, en fait, vient évidemment du film de Véronique Aubouy, qui, comme vous l'avez rappelé, donc a commencé en 1993 à filmer des gens lisant deux pages et demie chacun de La recherche du temps perdu, qu'elle ensuite monte bout à bout pour, au final, constituer une lecture intégrale de la recherche. Et donc ça fait 22 ans que le film est commencé. Je pense qu'elle est à peu près au premier tiers de la prisonnière maintenant. Elle a donc encore largement 10 à 15 ans de travail devant elle. Elle commence déjà un peu à s'angoisser pour savoir ce qu'elle fera quand elle aura fini. Donc il y a plusieurs options, s'attaquer aux mémoires de Saint-Simon ou recommencer la lecture de la recherche. Bon, voilà. Et donc l'idée de départ, c'est... En fait, il faut dire, parce que c'est aussi un aspect parfois important dans la naissance des livres, c'est une commande, ce livre. Une commande d'un éditeur de chez Grasset qui a demandé à Véronique de prolonger, en quelque sorte, cette expérience relativement atypique dans le paysage cinématographique. par un texte sur lequel il lui laissait tout à fait toute latitude de l'organiser comme elle l'entendait. Et donc il se trouve qu'on se connaît depuis plusieurs années, qu'on échange beaucoup autour de Proust, qui est pour moi depuis longtemps été une lecture vraiment tout à fait importante, comme pour nombre d'entre nous. Et elle m'a demandé à son tour de l'écrire avec elle. Voilà. Pour, d'une certaine manière, essayer de prolonger par écrit cette espèce de conversation un peu à bâton rompu qu'on mène depuis des années autour de Proust, parce que évidemment on ne se lance pas dans un projet de ce genre, c'est-à-dire 22 ans plus 10 ans devant soi, sans être très légèrement obsessionnel sur le sujet qui l'occupe. Mais ce qui est merveilleux avec Véronique Aubouy, outre l'incroyable détermination quand même dont elle fait preuve, parce que c'est une chose de se lancer un défi de ce genre en sachant que ça va prendre un temps fou, mais ce qui est inouï, c'est qu'au bout de 22 ans, à chaque fois qu'elle va filmer un nouveau lecteur, c'est exactement comme si elle filmait pour la première fois, quoi. Donc l'enthousiasme n'est absolument pas érodé. Et donc, on parle depuis des années ensemble de Proust et surtout de notre très profondément de notre joie intense à fréquenter ce texte de toutes les manières possibles. Et la seule chose qu'on se soit réellement fixé à l'ouverture de ce travail, c'était de se dire de toute façon, il est absolument hors de question d'ajouter une contribution à la glose déjà totalement considérable qui recouvre et parfois ensevelit l'œuvre, et d'essayer au contraire de finalement de trouver par écrit l'équivalent du travail qu'elle fait avec le cinéma, c'est-à-dire simplement le plaisir au ras du texte, quoi. Voilà, de retrouver quelque chose qui soit de l'ordre du bonheur, et de donc pour cela ne pas donner à notre propos une forme docte ou une forme en surplomb encore une fois un énième commentaire, mais d'inventer quelque chose qui soit de l'ordre du dialogue entre nous, qui puisse correspondre au dialogue qu'elle instaure avec chacun des liseurs de son film, et qui permette à elle comme à moi de glisser les quelque chose que on pourrait avoir envie de dire sur Proust et sur la lecture de Proust sans les mettre en forme de manière rébarbative.
Ou académique.
Ou académique.
Donc voilà, Mathieu Riboulet vient de donner une image de ce livre qui, effectivement, ce qui frappe au premier abord, ce sont précisément les chapitres très très divers. Donc pour donner une idée à ceux qui ne l'ont pas lu mais qui vont le lire, par exemple à partir des rêveries du narrateur sur les noms propres et du chemin qu'il fait, enfin c'est vous qui le dites, pour aller du mot Guermantes à la chose Guermantes, vous réfléchissez dans un chapitre à ce drôle de lien ou cette faille qui unit les mots et les choses, alors en partant d'un nom propre qui fait partie de votre propre, je sais pas, mythologie familiale, quoi. Dans un autre chapitre est évoqué le tourbillon que provoque dans un couple la lecture par le mari de La Recherche. Il a attendu d'avoir 63 ans pour le faire, alors que sa femme se dit, je cite, « Cette lecture est un voyage essentiel que l'homme ne saura pas faire seul. » Et donc, c'est l'histoire de cette lecture à deux. Ailleurs encore, ce sont les séances de projection de ce film, donc dans un cinéma des jours et des nuits, vu le nombre d'heures Alors, je ne sais pas exactement combien ça a duré, mais plusieurs...
Il y a plus de 100 heures là, oui, à l'heure donc, actuelle, voilà. et que souvent elle essaye d'organiser des projections in extenso, voilà. Dans des salles qu'elle aménage spécialement avec des coussins, voire des matelas, et donc les gens sont invités à entrer, à sortir comme ils veulent, à y rester, à pouvoir s'endormir pendant voilà. une heure, ou se réveiller, reprendre le fil de la lecture.
C'est ça. Alors ça, c'est évoqué par le biais de... du gardien, là, du cinéma. Bon, vous voyez, parfois des scènes rigolotes, parfois des scènes exotiques, parfois des scènes inattendues, des scènes hallucinées. Et parfois aussi, on approche de près l'écriture. Alors, c'est pas la glose, mais on approche quand même l'écriture, le texte, et du texte à la phrase. Véronique Aubouy parle du dispositif qu'elle avait inventé au départ. Alors, je sais plus comment elle dit... un rituel délicieusement sadique par lequel elle faisait brusquement signe au lecteur que c'était fini et qu'il devait s'arrêter à la fin de la phrase qu'il était en train de lire. Alors je crois que c'était une ficelle qu'elle avait attachée au pied ou je sais pas quoi, sur laquelle elle tirait. Et donc, bon, après ça a été plus soft, plus sagement, elle a écrit début et arrivée sur le texte. Mais au-delà, cette affaire de découpe du texte pose celle du découpage des phrases, de les découper à l'oral, au sens de faire entendre leurs contours, évidemment pas de les couper en morceaux, et dessiner pour l'oreille les contours de cette longue phrase proustienne, hein, donc cette forme qui se donne dans le temps, qui accélère, qui ralentit, qui se suspend, qui se pose un temps dans la parenthèse, par exemple, et dans cet hors-temps qu'est la parenthèse, et cette question de la suspension, vous l'abordez dans un chapitre intitulé précisément « Suspension », la suspension de la lecture à voix haute, la suspension de la lecture du livre, la suspension dans la séance d'analyse, la suspension aussi de l'écriture, hein, où arrête-t-on une phrase, où arrête-t-on le développement d'un thème, d'une idée. Donc, tout ça pour donner une image de ces chapitres qui sont vraiment extrêmement divers.
Non, c'est tout à fait juste. Je peux juste dire peut-être sur la façon dont on a procédé, puisque bien sûr le livre devait quand même essentiellement partir de l'expérience de tournage de Véronique, mais il était hors de question pour nous de faire ce qui aurait ressemblé à un journal de tournage ou à une espèce de catalogue d'impressions qui c'était pas du tout le but, mais il est bien évident qu'il fallait partir de cette matière et que donc la matière de tous les gens qu'elle a filmé, de toutes les circonstances, elle évidemment elle avait tout ça en tête bien mieux que moi, et l'idée s'est imposée très vite de faire comme ça une série de courts textes, et donc c'est elle qui a commencé par en faire 4 ou 5 auxquels je répondais, en fait, auquel j'ai répondu comme ça, comme un écho à chaque fois, parfois en prolongeant une idée contenue dans son texte, parfois en reprenant juste un mot ou une expression de façon à la décliner d'une autre manière. Bon, on a organisé la circulation comme ça, et plus on avançait dans la rédaction du livre, plus il nous est arrivé aussi de fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est moi qui écrivais d'abord des textes auxquels elle-même faisait écho, nous détachant, disons, progressivement de l'objet film du départ. Quoi. Voilà, c'est juste pour indiquer qu'il y a eu ce processus-là et qui, je pense, aussi nous a permis de partir dans des directions très différentes, de donner des textes aux tonalités très différentes, comme vous l'avez évoqué. Et le souci constant qu'on a eu aussi, c'était de se dire, certes, on part de ce filmage de la lecture de La recherche du temps perdu, l'ensemble de notre propos va être évidemment complètement infusé par la lecture de Proust, mais il faut aussi absolument que quelqu'un qui n'a pas vu le film, et a fortiori quelqu'un qui n'a pas lu La recherche du temps perdu, puisse lire ce livre-là sans avoir le sentiment d'en être exclu. Voilà, c'était le cahier des charges.
Là, je crois que c'est réussi justement, parce que cette diversité, comme j'ai essayé de le montrer, parfois touche vraiment très avant dans le texte, parfois on va dire vous vous lâchez et vous partez dans des, voilà, je dis des scènes hallucinées ou peu importe, donc effectivement il n'y a pas du tout ce sentiment qu'il faut en être, pour reprendre une expression de Proust, pour pouvoir apprécier ce livre.
Non, bien sûr, c'était ouais. Vraiment histoire de le de sortir Proust de bah, simplement de la, des spécialistes quoi, de la, de, ou du de commentaire, la. Voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de la glose et de dire que de toute façon, dans le, à la fois dans Proust, mais évidemment dans tout geste de lecture, ce qui prime, c'est la liberté que ça donne et non pas les devoirs que ça implique.
Tout à fait. Donc, on pourrait dire que ce livre occupe une place particulière ou peut-être une place à part dans vos derniers livres. Donc, Prendre date, que vous avez écrit cette année, en 2015, avec Patrick Boucheron et que vous avez présenté au Banquet d'été. Entre les deux, il n'y a rien, et Lisière du corps, que vous venez de publier et dont nous parlerons demain. Donc, je dis une place particulière, mais Pauline Lachaud sera peut-être d'un avis contraire.
Mais en fait, je trouve que cette œuvre, enfin, elle résonne dans votre œuvre globale. Donc, il est spécifique dans le fait que c'est effectivement le fruit d'une écriture à quatre mains, sur le propos voilà, spécifique d'écrire à partir de ce que vous évoque tant le travail de cinéaste de Véronique Aubouy que le livre « À la recherche du temps perdu ». À savoir l'impact que l'œuvre de Proust a eu à la fois sur votre vie d'homme et d'écrivain. Donc, s'il vous permet de dire de manière atypique l'importance de ce que représente cette lecture pour vous, ce livre ne semble pas pour autant être un point isolé de vos écrits. Donc, dans toutes les idées, les réflexions qu'on peut trouver en écho de votre œuvre, principalement, moi, celle qui m'est venue à l'esprit, c'est l'idée que la littérature est pour enjeu majeur de donner parole aux absents, de, enfin, je vous cite, ressusciter les morts, et que ceci soit même une de ses tâches. Et justement, à lire vos récents livres, donc Entre les deux, il n'y a rien, notamment, on retrouve les noms, les prénoms des personnes assassinées durant les mouvements révolutionnaires, et ça revient tel des litanies. Et en même temps, on sait, enfin, vous le dites, que l'enjeu n'est pas seulement de rendre hommage aux morts, d'en faire un monument aux morts, voilà, figé, fixe, mais d'entendre ces morts dans ce qu'ils peuvent nous dire à nous aujourd'hui en tant que contemporains. Et on a aussi dans Prendre date, également, voilà, les personnes assassinées qui sont citées. Et qui ne sont pas forcément celles dont on connaît le nom, comme les dessinateurs de Charlie Hebdo. Donc, redonnant ainsi au corps des morts un peu de leur mouvement, et redessinant, donc je vous cite par rapport à ce livre, leur monde à eux, aux contours imprécis, si densément peuplés, si fermement installés dans la durée, vous vous attachez en effet à ménager au sein de vos livres des espaces dans lesquels le lecteur peut entendre ce que ces morts ont à lui dire. Et. Du coup, j'avais envie de mettre ça en parallèle avec l'histoire, puisqu'à lire ces deux livres, on a l'impression que la littérature peut redonner vie à une fixation qu'a entraînée l'histoire par les faits qu'elle égrène à sa suite, et dont on est apparemment notre insu les dépositaires. Et donc, je me suis demandé s'il serait souhaitable, possible, de faire une histoire qui s'écrit non pas à la manière de retranscrire des faits figés, mais de faire une histoire en essayant de la rendre vivante, palpable, davantage consciente, par un travail notamment sur la langue, un travail de renouvellement, de questionnement, ce qui entrerait également en parallèle avec le livre d'Ivan Jablonka, l'histoire d'une littérature contemporaine, qui se propose justement de mêler l'histoire et l'écriture proprement littéraire.
Oui, bien sûr, il y a ce travail-là qui est, enfin, cette fonction-là de la littérature qui, moi, m'est apparue très vite, en tout cas pour ce qui est de donner voix aux morts ou donner voix à ceux qui ont fait, font ou sont obligés de faire silence. Simplement, c'est vrai que l'ensemble du parcours de mon travail depuis une vingtaine d'années fait que l'espèce de spectre, c'est le cas de le dire, de mort ou de silence que j'explore s'élargit constamment et que bien évidemment, d'un seul coup, l'accès à l'histoire devient absolument central, mais comme si c'était, encore une fois, vraiment une logique. C'était simplement se rendre finalement à un point vers lequel on tendait sans éventuellement le savoir, quoi. Et que bien évidemment, en tout cas, on peut considérer qu'une des dimensions de la littérature, c'est évidemment de rendre compte, non pas tant de l'histoire figée dont vous parlez, c'est-à-dire des dates, succession d'événements, telle ou telle conséquence, que de l'effet que produit cette succession d'événements sur la conscience de celui qui écrit ou sur la conscience de ceux qui se sont tus et dont l'écrivain se fait la voix, quoi. Et en fait, bien évidemment, ce processus de travail, ce processus de prise en compte comme ça de l'histoire, elle il fonctionne aussi avec la littérature, parce que tout ça est évidemment absolument inextricablement mêlé. Et que une des manières d'aborder l'histoire, en dehors des livres d'histoire, c'est bien évidemment la littérature. Et donc on le sait avant même d'avoir soi-même une pratique de ça. On le sait comme lecteur, tout simplement. On sait bien que la lecture, par exemple, des premières pages de la Chartreuse de Parme peuvent être beaucoup plus riches d'enseignements sur ce qu'a été cette bataille napoléonienne qu'un livre d'histoire qui raconterait par le menu la position des troupes, et voilà. Et donc il y a quand le processus devient clair à l'esprit de l'écrivain, il y a une espèce de concomitance permanente de l'histoire, de la littérature et de l'écriture qui au fond ne cesse d'aller de pair, et que simplement au gré des sujets qu'on choisit d'explorer ou au gré des circonstances, bien évidemment le travail porte davantage sur un aspect ou sur un autre, il les englobe pas forcément toujours simultanément. Mais il est bien évident que, par exemple, si on veut replacer le travail effectivement un peu particulier à la lecture dans le reste de ce que j'ai pu faire, il y a simplement déjà évidemment cette prise en compte de la littérature, le fait de toujours quand même trouver moyen d'aller explorer quelque chose qui encore une fois se tait ou se dérobe, et d'un seul coup la possibilité, parce que son propre travail est suffisamment assuré, ou parce que ma propre parole est suffisamment assurée à ce moment-là, de prendre le risque, entre guillemets, très relatif quand même, hein, d'aller le confronter à la parole d'une autre, en l'occurrence Véronique Aubouy, dans le dialogue instauré. Mais qu'il y a bien évidemment pour moi à la lecture une ouverture possible, enfin qui a rendu possible ensuite, même si le registre est évidemment radicalement différent, au dialogue avec Patrick Boucheron d'en prendre date, parce que il y a ce travail de poursuivre, en fait, c'est toujours la même histoire, c'est poursuivre la conversation. De l'amitié, de la complicité, de la communion d'une certaine manière dans une lecture ou dans un événement, de lui donner une autre forme, et donc de prendre le risque d'exposer son propre travail solitaire d'écriture à un autre travail du même ordre et à les faire dialoguer ensemble. Et c'est aussi une porte ouverte à une forme courte que j'avais encore jamais pratiquée. Et il est à peu près clair pour moi, même si je ne l'ai pas vu tout de suite, que dans un ou deux textes de la lecture, il y a en germe à peu près la moitié de lisière du corps. Voilà. Donc tout ça fonctionne bien sûr comme un ensemble.
Et des allusions aussi entre les deux quand vous parlez. Enfin,
oui, oui, absolument. Mmh. Mais bien évidemment, parce que aussi chaque. Enfin, c'est pas obligatoire, mais souvent des textes peuvent porter en germe non seulement des réminiscences de textes passés, mais des ébauches de textes futurs, parce qu'il y a toujours, en tout cas moi c'est comme ça que je procède, il y a presque toujours dans mes livres, et ça c'est un des rares processus dont j'ai une conscience à peu près claire, presque depuis le premier livre, il y a des choses que j'essaye, en fait, presque dans chaque livre, des pistes, une hypothèse, une construction, en sachant que c'est pas encore le moment, c'est juste comme une gamme, comme ça, faire une gamme, me dire, bon, c'est très bien, je le place là, parce que ça ne départ pas, mais je sais que j'y reviendrai. Et si je peux continuer le développement sur l'histoire de simplement l'expression prendre date, pour moi elle vient de là, parce que prendre date c'est une expression évidemment très répandue, hein, mais c'est toujours comme ça que j'ai formulé cet aspect-là de mon travail, c'est-à-dire que je sais très bien que quand je mets quelque chose comme ça, une trace d'une chose sur laquelle je veux revenir, je la place dans un livre justement pour prendre date, mais juste par rapport à moi-même, pour savoir que le jour où je vais aller développer ce truc-là, je pourrais me reporter, je saurais que à tel endroit de tel livre, j'avais déjà essayé ça, et je vois si le chemin parcouru entre les deux points est suffisant, et mes armes suffisamment renouvelées pour que je puisse procéder au développement de ce que j'avais juste posé comme un repère.
Merci. Bah, de toute façon,
une toute petite dernière
question, mais elles ne sont pas petites.
C'est ça, les réponses non plus, donc
comment faire
peut-être, comme je vous sais voulez. Pas, une évocation de questions. Non, mais comme vous voulez, Pauline.
Bah, moi, j'en serais ravie, hein, mais du coup, c'est par rapport au temps qu'il. Enfin, juste voilà. Si pour rebondir. Sur ce que tu as dit là, ça m'a fait penser au processus d'écriture dont tu as parlé, de ne pas, enfin, d'avoir suffisamment être prêt suffisamment pour entamer un nouvel écrit. Et là justement, c'est poser quelque chose, une tentative dans un écrit dont on sait que c'est une tentative, de prendre date avec ça. Et d'y revenir par la suite, ce qui, du coup, empêcherait l'effet avortement d'un écrit qui se lance tout seul et qui, finalement, n'a pas suffisamment de maturation ou de...
Oui, éventuellement. J'avais pas formulé comme ça, mais ça peut fonctionner de cette façon-là aussi. C'est parce qu'effectivement, j'évoquais avec vous, là, tout hier, le moment très particulier qui est celui du démarrage de la rédaction d'un texte, dont on sait qu'il est en gestation depuis un moment, on tourne autour du truc, on ne sait pas encore trop quelle forme ça va avoir. Là, je peux rejoindre absolument ce que disaient Yves Ravet et Julie Adek ce matin sur le fait qu'on avance sans plan et que... on a éventuellement une amorce et qu'on va ensuite développer quelque chose, mais qu'il y a un moment très délicat qui repose sur une pure intuition, qui est celui où effectivement on va décider que le moment est venu et que ce qui est en gestation, en ébauche, etc., on va pouvoir démarrer, on va pouvoir se lancer. Et le livre va pouvoir sortir derrière. Et ce moment-là, il est évidemment très délicat, parce que si on prend cette décision-là trop tôt, ben bien sûr, la gestation n'est pas terminée, le livre n'est pas prêt, et donc il échoue. Voilà. Quels que soient les jalons qu'on a posés avant, d'ailleurs, parce que là, pour le coup...
du coup, ça permet d'en poser également, de manière... comme ça, ponctuel, à travers un autre projet.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ça fonctionne de toute façon dans l'aller-retour permanent entre. Mais ça, d'une certaine manière, on en fait état. C'est un peu de la cuisine, mais en même temps, ça a son importance, parce qu'on voit bien que, au fond, beaucoup de choses vraiment de l'essence même du travail et de ce qui va faire le geste du livre, ce qui est presque peut-être pas plus important que le livre. Faut pas, enfin, il s'agit pas de créer des hiérarchies qui seraient peut-être artificielles, mais il y a quand même quelque chose de très très important dans ce moment-là et dans ces processus-là. Parce que le livre est toujours le fruit de un ou deux très brefs moments comme ça de cristallisation et dont le reste va découler. Mmh. Et donc, du coup, ces moments, c'est des moments très très délicats qu'il faut jouer très finement et qui restent très mystérieux, mais dont, à mon sens, il est quand même de temps en temps, quand l'occasion s'en présente, comme dans des endroits comme ici, important de faire état, parce que ben voilà, parce que ça peut avoir de l'intérêt de savoir comment quelque chose prend forme, quoi, et que ça n'est pas forcément, je veux pas non plus faire des généralités, mais que ça n'est pas forcément dans un travail acharné quotidien sur la phrase, etc. Mmh. Qu'il y a aussi des choses qui se jouent vraiment ailleurs. Mmh.
On reviendra sur votre processus d'écriture voilà. Demain.
C'est ça.
Lors de l'entretien.
Puisque demain après-midi, nous aurons donc la conversation avec Mathieu Riboulet à propos de son œuvre dans son intégralité et non pas sur ce livre. Donc maintenant, on va passer au deuxième temps de la lecture.
Donc ce livre, vous l'avez compris, c'est un livre à quatre mains, écrit à deux. Un livre gigogne, est-il dit dans la postface. Donc nous allons présenter, quant à nous deux, une lecture à deux voix qui fera entendre donc ce livre dont nous venons de parler, le livre de Marcel Proust et sans doute aussi les voix des lecteurs du film Proust lu. Alors les passages lus par Émilie Rousseau renvoient au livre À la lecture de Mathieu Riboulet et Véronique Aubouy.
Et les passages lus par Isabelle Sarsat seront issus de La recherche du temps.
Voilà. Donc ce qu'on voudrait faire entendre, c'est des échos, des résonances dans ce qu'on pourrait peut-être appeler une lecture gigogne.
Enfin, ça, c'était votre idée.
Ah.
Parce que, en fait, moi, j'avais plutôt pensé faire une lecture tissée.
Alors, tissée.
Non, ou alors même plutôt tricoter, parce que vous voyez, on a deux comme ça.
Alors, tricot... on va dire qu'il s'agit d'une lecture tricotée. On y va.
Tais-toi là. Marcel, 83 ans. Un béret, des lunettes, en bleu de travail, est assis face à la caméra. Il tient à la verticale les deux feuilles A3 sur lesquelles j'ai photocopié en gros caractères ses pages à lire, extraites d'un amour de Swann. Marcel a de grandes oreilles et un grand nez, signe noble de la vieillesse. Il a aussi de grandes lunettes et un grand chien est couché sur ses pieds. Derrière Marcel, le manteau de la cheminée est bordé sur sa partie inférieure d'un large tissu foncé à fleurs. Plus haut, un crucifix, derrière lequel a été glissée une branchette de buis. Entre la cheminée et le poêle, une vieille femme est assise dans un fauteuil en osier. Les deux mains posées sur sa canne, elle s'assoupira sous les effets conjugués de la lecture et de la chaleur du poêle. Parfois, la voix de son époux l'éveillera, elle tendra l'oreille, puis s'assoupira de nouveau, la tête tombant sur le côté. Une mouche croisera le champ de temps à autre.
C'était de ces chambres de province qui nous enchantent des mille odeurs qui dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l'atmosphère y tient en suspens. Odeurs naturelles, certes, et couleurs du temps comme celles de la campagne voisine, mais déjà casanières, humaines et renfermées, gelées, exquises, industrieuses et limpides de tous les fruits de l'année qui ont quitté le verger pour l'armoire. Saisonnières, mais mobilières et domestiques, corrigeant le piquant de la gelée blanche par la douceur du pain chaud, oisives et ponctuelles comme une horloge de village, flâneuses et rangées, insoucieuses et prévoyantes, lingères, matinales, dévotes, berceuses d'une paix qui n'apporte qu'un surcroît d'anxiété et d'un prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie à celui qui la traverse sans y avoir vécu. L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourricier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise. Surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques, où je le goûtais mieux, parce que je venais seulement d'arriver à Combray.
Le silence se fait. Le rituel s'enclenche. Moteur, regard caméra, c'est parti. Marcel lit. Il n'est pas du tout impressionné par l'autre Marcel. Il ne le connaît pas. Il y va donc très tranquille à sa lecture. Tellement tranquille qu'on dirait que ce Marcel est l'ancêtre de l'autre Marcel, qui lui dit en mangeant ses mots, « Dame, c'est bien bon ce que t'as fait là, petit. » Les feuilles à trois s'élèvent peu à peu sous l'effet de la lecture. Elles cachent progressivement le visage de Marcel, d'abord sa grande bouche, puis son grand nez, puis ses grandes lunettes et ses grandes oreilles. Enfin, on ne voit plus que le béret. Quelque chose d'inouï dans cette lecture, une simplicité, une évidence qui dépasse tout dessein. Cela a lieu hors de moi, entre deux Marcel qui communiquent et se respectent. Cette cuisine est devenue un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions, le temple de la recherche.
Je faisais quelques pas, du prie-Dieu au fauteuil en velours frappé, toujours revêtu d'un appui-tête au crochet. Et le feu cuisant comme une pâte, les appétissantes odeurs dont l'air de la chambre était tout grumeleux, et qu'avait déjà fait travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson où, à peine goûtés les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputé, mais plus sec aussi du placard, de la commode, du papier à ramage, je revenais toujours avec une convoitise inavouée, m'engluée dans l'odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée, du couvre-lit à fleurs.
Parfois aussi le livre surgit dans le texte d'un autre qu'on n'aurait pas songé à lui associer, pas un instant. Jugez de ma surprise en voyant Madame Verdurin pointer le bout de son nez au détour d'une page de Tigre de papier, où Olivier Rollin raconte son engagement dans le mouvement maoïste français à l'orée des années 70. Non que je soupçonne, ni même ai jamais soupçonné, qu'Olivier Rollin n'ait pas lu Proust, mais convenons que le monde à la recherche du temps perdu, qui tient de la dentelle de Calais, de la passementerie d'un autre âge, où le point de croix le dispute à celui d'Alençon, et même si la Verdurin y fait figure d'éléphant dans un magasin de porcelaine avec ses manières de soudard, semble à mille lieues de l'âpre lutte idéologique où une petite fraction de la jeunesse française née de mai 68 a jeté ses forces vives, porteuses d'espoir qui se sont bien souvent éteints. Évidemment, c'est l'aspect soudard de cette bourgeoisie ivre d'ascension et de pouvoir qui intéresse Rollin, qui fait sens dans son récit, parfois écho, parfait écho à l'ennemi de classe que s'étaient trouvés ses engagés volontaires. Passé la surprise initiale, une évidence s'impose. Il y a parfois de ces permanences, de ces traits caractéristiques, en l'occurrence d'une classe sociale, qui traversent les ans et produisent des effets similaires quasi indépendamment du contexte, et Proust, en impitoyable observateur, entomologiste de ces traits, nous livre 100 ans plus tard des instruments de mesure. Ici, de la vanité assez sotte d'une mondaine ambitieuse, un brin hystérique, qui vaut pour sa classe, d'une précision inégalée.
Madame Verdurin était assise sur un haut siège suédois en sapin ciré qu'un violoniste de ce pays lui avait donné et qu'elle conservait, quoiqu'il rappelât la forme d'un escabeau et jura avec les beaux meubles anciens qu'elle avait, mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps afin que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils venaient. De ce poste élevé, elle participait avec entrain à la conversation des fidèles et s'égayait de leur fumisterie, mais depuis l'accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre la peine de pouffer effectivement et se livrait à la place à une mimique conventionnelle qui signifiait, sans fatigue ni risque pour elle, qu'elle riait aux larmes. Au moindre mot que lâchait un habitué, contre un ennuyeux ou contre un ancien habitué rejeté au camp des ennuyeux, et pour le plus grand désespoir de M. Verdurin, qui avait eu longtemps la prétention d'être aussi aimable que sa femme, mais qui, riant pour de bon, s'essoufflait vite, et avait été distancé et vaincu par cette ruse d'une incessante et fictive hilarité, elle poussait un petit cri, fermait entièrement ses yeux d'oiseau qu'une taie commençait à voiler, et brusquement, comme si elle n'eût eu que le temps de cacher un spectacle indécent ou de parer à un accès mortel, plongeant sa figure dans ses mains qui la recouvraient et n'en laissaient plus rien voir, elle avait l'air de s'efforcer, de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement. Telle, étourdie par la gaieté des fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d'assentiment, Madame Verdurin, juchée sur son perchoir, pareille à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d'amabilité.
Et si la recherche, il me semble qu'on ne le dit pas assez, qu'on a un peu trop tendance à en faire un palais de la mémoire réputée et indépassable et inaccessible, est aussi un livre formidablement critique et formidablement drôle, il peut également, comme tous les grands livres, être la bouée de sauvetage qui nous permet de garder contact avec le monde. Michel Schneider, psychanalyste, écrivain, lui aussi passé par la case maoïste, raconte dans un entretien radiophonique que c'est la lecture de la recherche, considérée, dit-il aujourd'hui, comme un sommet de littérature bourgeoise réactionnaire par ses camarades, qui l'a sauvé de l'endoctrinement et du sectarisme dans lesquels il se laissait glisser.
Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant et il lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre.
Nous sommes tous des amnésiques. Rien de tel qu'une petite généralisation hâtive pour se rassurer. Être précédé d'une généalogie décapitée par la maladie d'Alzheimer fait de vous, au choix, ou le roi du déni, ou le roi de l'inquiétude pour tout ce qui a trait à votre propre mémoire quand vous parvenez dans ces zones incertaines de l'âge où se glissent furtivement les premiers signes de la partie qui va se jouer, là-haut, dans le cerveau, au long du temps qui reste, que vous n'aviez nullement anticipé et dont vous songez tout à trac qu'elle ne sera guère plus aimable que celle qui se joue dans les jambes, incontestablement moins prompte à se lever que voici 30 ans.
Que vers le matin, après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train de lire, dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil. Et à la première minute de son réveil, il ne saura plus l'heure. Il estimera qu'il vient à peine de se coucher. Que s'il s'assoupit dans une position encore plus déplacée et divergente, par exemple après dîner, assis dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités. Le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et dans l'espace, et au moment d'ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée.
Et quoi ? Il faudra bien tout perdre un jour, non ? La tête comme les jambes ? Et le fait que nous serons, au fond, les plus profondément indifférents à cette perte lorsqu'elle sera accomplie devrait nous rassurer. Il ne nous manque donc qu'un peu d'entraînement, mais un entraînement joyeux, qui tournerait le dos à ces images austères d'hommes méditant sur la mort en de lugubres retraites tout empesées d'obscurantisme, de religion. Lisez à la recherche du temps perdu, régulièrement, tous les 5 ou 10 ans par exemple. Sa plasticité est si grande, la place que son auteur a laissée au lecteur à la fois si intime et si vaste qu'on peut, sans grand dommage, l'occuper plusieurs fois sans jamais avoir l'impression de faire du surplace. Cela tient au fait qu'à chaque nouvelle lecture, vous êtes un autre.
Mais il suffisait que dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendît entièrement mon esprit. Alors, celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, Je ne savais même pas, au premier instant, qui j'étais.
Vous êtes un autre. Vous ne reconnaissez plus rien, ou pas grand-chose, de ce paysage déjà dûment arpenté. Pourtant, à chaque fois, vous l'avez traversé en vous disant « Cette fois, je veillerai à ne pas confondre les épisodes, à ne pas mélanger le premier séjour à Balbec et le second, à ne pas prendre la princesse de Guermantes pour la duchesse du même nom. Je me souviendrai que la profanation de Montjouvain a lieu dès le début du roman. » Et à chaque fois, vous êtes de nouveau surpris par l'enchaînement, les personnages, les réflexions qui ont un vague air de familiarité comme venu d'un rêve déjà fait et semblent pourtant, dans le même temps, parfaitement inédits, novateurs, surprenants. S'apparentant dans le meilleur des cas à une réminiscence longtemps enfouie, et la plupart du temps à une découverte dont l'acuité et le bonheur d'expression vous saisissent comme au premier jour.
J'avais seulement, dans sa simplicité première, le sentiment de l'existence comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes. Mais alors le souvenir venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant d'où je n'aurais pu sortir tout seul. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation et l'image confusément entrevue de lampes à pétrole puis de chemises à col rabattu recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi.
Accepté, dès la première fois, et sans le savoir, d'oublier ce livre au fur et à mesure de vos lectures, pour sentir d'emblée que les possibilités qu'il offre de tenir le fil des heures, l'ordre des années et des mondes, change sans cesse avec vous, mais que le livre, lui, les contient toujours, quel que soit votre âge, quelle que soit votre peine, quel que soit l'état enfin de votre mémoire, à qui l'oubli est un bien si précieux.
Un homme qui dort, tient en cercle autour de lui,
le fil des heures,
l'ordre des années et des mondes. Une petite suite encore. Pas fini.
Vous êtes si pressé. Première nuit. 4h du mat. J'aurais jamais pensé que je me retrouverais là, à garder un film qui dure 100 heures, avec que des mecs qui lisent et d'autres mecs qui dorment devant le film.
Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner et que pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde comme si ça avait été dans ma chambre. Aussi,
tiens,
je me promettais,
revoilà la réalisatrice,
dans la salle à manger,
elle dort jamais ou quoi ?
Pendant qu'on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l'heure,
quand je l'ai eu hier pour la première fois,
de faire d'avance de ce baiser qui serait si court et furtif,
elle m'a demandé d'écrire toutes mes impressions dans un cahier,
tout ce que j'en pouvais faire tout seul,
tout ce que je voyais dans le film et dans la salle,
de choisir avec mon regard,
elle est un peu dingue cette meuf,
la place de la joue que j'embrasserais,
genre 40 ou 50 piges,
de préparer ma pensée,
les cheveux frisés,
pour pouvoir, grâce à ce commencement mental du baiser,
elle m'a dit que le livre qu'ils lisent, c'est un grand classique.
Consacrer toute la minute que m'accorderait maman,
qu'on peut y voir son âme comme dans un miroir,
à sentir sa joue contre mes lèvres.
Pas très clair le miroir quand même.
Comme un peintre qui ne peut obtenir.
Parfois, je chope un truc. Tout à l'heure, j'ai failli chialer parce que le mec, il parlait de sa mère.
Ma mère ne vint pas. Et sans ménagement pour mon amour propre, me fit dire par François ces mots, il n'y a pas de réponse.
Qu'il attendait qu'elle vienne lui faire son câlin du soir et tout ça.
Je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser coûte que coûte, bien que ce fût avec la certitude d'être ensuite fâchée pour longtemps avec elle.
Et que finalement il faisait une crise, alors elle venait se coucher près de lui, elle l'appelait mon petit loup et tout.
Il y a bien des années de cela. La muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps.
Moi, ma mère, c'est mort, elle viendra plus jamais me faire de câlins.
Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi.
Mais bon,
depuis peu de temps,
c'est passé.
Je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'ai eu la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seule avec maman.
Je suis pas le genre de fillette à chialer au cinoche, moi.
En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau.
Moi, ce qui me plaît bien dans ce film, c'est de voir la tête des gens. Les endroits où ils sont, il y a tout. Tout à l'heure, il y en avait un qui lisait dans une grande roue à la foire du trône. Et puis, on voit bien qu'ils sont pas dans leur assiette. Ils prennent leur respiration, comme on fait à la piscine, sauf que c'est pour lire. Remarque, ça doit pas être facile avec tous ces mots. 6h du mat. Je viens de rentrer dans la salle. Ça ronfle partout. Même la réalisatrice. Moi, je vais bientôt aller me pavache. À 7h du mat, ils viennent. Et ce soir, je reviendrai garder le film. Je trouve ça frais comme manière de se faire de la thune. T'accueilles des gens, tu leur fais le blabla que la réalisatrice, elle a dit de leur faire. Allez-y, sentez-vous libre de manger, de sortir et de rentrer, de dormir même. C'est une grande parenthèse de temps. Elle m'a dit de leur dire... C'est sûr que pioncer devant un film, c'est du putain de temps perdu. Deuxième nuit. 1h du mat. Il y a une bande de meufs qui sont arrivées, des meufs toutes pareilles. Impossible d'en calculer une tant elles se ressemblent.
M'approchant de Gilberte, qui renversait sur sa chaise...
Elle rigolait.
...me disait de prendre la lettre et ne me l'attendait pas.
Il y en a une qui a pris 4 verres de vin.
Je me sentis si attirée par son corps...
Et une autre s'est foutue.
...que je lui dis, voyons... Empêchez-moi de l'attraper.
Elle a dit, regardez-la comme il est chou.
Nous allons voir qui sera le plus fort. Elle l'a mis dans son dos.
Elles ont toutes rigolé.
Je passais mes mains derrière son cou.
Et là, elles sont dans la salle, allongées les unes sur les autres.
En soulevant les nattes de ses cheveux qu'elle portait sur les épaules.
Super mal élevées.
Soit que ce fût encore de son âge.
À l'époque, les meufs, c'était autre chose.
Soit que sa mère voulut la faire paraître plus longtemps enfant afin de se rajeunir elle-même.
Dans le film, le mec, il joue au parc. Avec la meuf qui kiffe.
Nous luttions, arc-boutés. Je tâchais de l'attirer, elle résistait.
Il la poursuit.
Ses pommettes enflammées par l'effort étaient rouges et rondes comme des cerises. Elle riait comme si je l'eusse chatouillée.
Il la coince contre un arbre.
Je la tenais serrée entre mes jambes comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper.
Et hop.
Et au milieu de la gymnastique que je faisais...
Pas de chance, il se lâche.
Je répandis comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort.
Et comme c'est la première fois que ça lui arrive...
Mon plaisir, auquel je ne pus pas même m'attarder le temps d'en connaître le goût.
Il en revient pas.
Aussitôt, je pris la lettre. Alors Gilberte me dit avec bonté, « Vous savez, si vous voulez, nous pouvons lutter encore un peu. » Peut-être avait-elle obscurément senti que mon jeu avait un autre objet que celui que j'avais avoué, mais n'avait-elle pas su remarquer que je l'avais atteint. Et moi, qui craignais qu'elle s'en fût aperçue, et un certain mouvement rétractile et contenu de pudeur offensée qu'elle eut un instant après, me donna à penser que je n'avais pas eu tort de le craindre. J'acceptais de lutter encore, de peur qu'elle pût croire que je m'étais proposé d'autres buts que celui après quoi je n'avais plus envie que de rester tranquille auprès d'elle.
Bon, c'est dit avec d'autres mots, mais j'ai compris. Parce que je commence à bien saisir ce qu'il dit le mec à force. Je suis sûre qu'il kifferait bien ce film, Samy. Si on me redemande une autre fois de garder le film, je l'inviterais, Samy. Je lui dirais, viens voir un film avec des phrases de ouf. Tu vas kiffer, Samy. C'est que des mecs et des meufs qui lisent. Parfois même, il y a des gosses. C'est que ça, le film. Mais tu verras, au bout d'un moment, tu trouveras ça normal. Et il y a des phrases trop top, tu vois, sur ta mère, sur ton vieux. Comment parfois, t'as juste envie de cracher sur la photo de ton vieux, tu vois, par exemple. Mais tu le fais pas. Parce que ce que tu kiffes le plus... C'est l'idée de le faire. C'est dans ta tête que tu l'as fait. Et rien que ça, bah t'es content.
Bouleversement de toute ma personne.
Mais le moment que j'ai vraiment kiffé de chez kiffé...
Dès la première nuit, comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque...
C'est quand le mec, il enlève ses pompes.
Tâchant de dompter ma souffrance, je me baissais avec lenteur et prudence pour me déchausser.
Et il se met à chialer parce que ça lui rappelle sa grand-mère qui est morte il y a un an.
À peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine...
Et qu'avant, c'est elle qui lui enlevait ses pompes.
Ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine.
En fait, il réalise que sa grand-mère...
Des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux.
C'est mort.
Je venais d'apercevoir dans ma mémoire...
Il la verra plus jamais.
...penché sur ma fatigue.
Et après, le mec...
Le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère.
Il met des jours à s'en remettre.
Tel qu'elle avait été ce premier soir d'arrivée, le visage de ma grand-mère...
Il fait des cauchemars et tout.
Non pas de celle que je m'étais étonnée et reprochée de si peu regretter et qui n'avait d'elle que le nom.
Et moi, ça m'a trop rappelé quand j'ai compris que ma mère...
Mais de ma grand-mère véritable, dont...
Je la verrai plus jamais.
Pour la première fois depuis les Champs-Élysées où elle avait eu son attaque, je retrouvais, dans un souvenir involontaire et complet, la réalité vivante.